fantôme de l'opéra, de Gaston Leroux. Adaptation Laurent Martin, première partie.
Monsieur Richard, une dernière signature et vous êtes officiellement le nouveau directeur de l'Opéra de Paris.
Monsieur Poligny, c'est un honneur de vous succéder. Même si je ne comprends pas la raison qui vous a poussé à démissionner.
Disons qu'il y a plusieurs raisons. La principale est liée à certaines particularités de cet établissement. Qu'importe, trinquons. Ensuite, nous irons entendre le récital donné en votre honneur.
En vérité, je crois que ce récital est donné en votre honneur plutôt qu'au mien. On m'a dit que le corps de ballet dans son ensemble, l'orchestre au complet, le chœur et les principaux chanteurs ont tenu à y participer et que toutes les loges sont réservées.
Peut-être, peut-être. Santé.
Santé.
Je crois vous avoir tout dit. Il y a cependant deux choses que je tiens à vous signaler si vous voulez que votre installation se déroule du mieux possible.
Je vous écoute.
Voici une copie du cahier des charges.
J'en ai déjà pris connaissance.
Je suppose, oui. Donc, article 1er, la direction de l'opéra sera tenue de donner aux représentations de l'Académie nationale de musique la splendeur qui convient à la première scène lyrique française. Et il se termine par l'article 98, citant tous les cas où la direction pourra être démise de ses fonctions.
Tout à fait.
Il y a cependant quelque chose que vous ne connaissez pas. Voyez, cette copie comporte in fine un alinéa écrit à l'encre rouge, avec cette écriture bizarre. Je me permets de vous le lire si vous le voulez bien.
Faites donc.
La direction pourra être démise si le directeur retarde de plus de 15 jours la mensualité qu'il doit au fantôme de l'opéra. Mensualité fixée jusqu'à nouvel ordre à 20 000 francs, soit 240 000 francs par an.
Au fantôme de l'opéra.
Lui-même.
J'ai entendu quelques rumeurs à propos d'un fantôme, mais rien d'aussi extravagant.
Cela n'a rien d'extravagant. Vous devrez payer.
Sinon ?
Ou sinon, le pire pourra arriver.
Cette plaisanterie est charmante. J'imagine qu'il s'agit là d'une sorte de blague potache que se font les directeurs de l'opéra les uns aux autres.
Il n'en est rien, monsieur Richard. Le fantôme existe, et j'ajoute qu'il est parfois très exigeant. Je vous montre autre chose. Cela concerne l'article 63, celui traitant des places réservées. En plus de celle du chef de l'État, de celle du ministre, de celle du préfet, il y a celle du fantôme lui-même. C'est ajouté aussi à l'encre rouge de sa main. La première loge numéro 5 sera mise à toutes les représentations à la disposition du fantôme de l'opéra.
La première loge numéro 5. Mais enfin, il me semble que vous êtes bien bon avec ce fantôme. Si j'avais un fantôme aussi gênant que ça, je n'hésiterais pas à le faire arrêter.
Mais où ?
Dans sa loge. Vous venez de me dire qu'il y vient tous les soirs.
Mais comment ? Personne ne l'a jamais vu.
Mais dans ce cas, l'affaire est réglée. Puisqu'il ne vient pas, je la louerai à quelqu'un d'autre.
Louer la loge du fantôme de l'opéra ? Eh bien, monsieur Richard, essayez donc. Moi, j'y ai renoncé.
Admirablement la Carlotta, cette petite Christine Dahl. La direction nous l'avait bien cachée. Le dernier cadeau de Poligny avant son départ. Qu'en dis-tu, Raoul ?
Mais tu as l'air bien pâle,
je t'en prie.
Ne vois-tu pas qu'elle se sent mal ?
Elle s'est effondrée sur la scène.
L'émotion, sans doute.
Mais c'est plutôt toi qui te sens mal.
Qu'est-ce que tu racontes, Philippe ?
C'est la première fois qu'elle chante comme ça.
Allons la voir.
Tu la connais ?
Je l'ai croisée une ou deux fois.
Mon petit frère ! Toi aussi, tu me caches des choses à propos de cette fille.
Comme toi, avec ta sœur Ellie.
Je ne cache rien,
d'avec Mademoiselle Sorel. Mais attends-moi donc!
Eh bien, cher comte, vous semblez perdu.
Je cherche mon frère, Mademoiselle Sorelli.
Raoul, vraiment, à l'étage des artistes.
Il est parti saluer Christine Daae après son triomphe.
Son triomphe, pas possible. Il y a 6 mois, elle chantait comme un clou.
Quelle petite peste.
Il faut croire qu'elle a changé. Dès que je mets la main dessus, je viens vous saluer dans votre loge.
Ne tardez pas, cher comte, ne tardez pas.
Raoul, je te trouve enfin. Mais tu écoutes aux portes ?
Chut ! Christine, il faut m'aimer. Il faut m'aimer.
Chut, il se passe quelque chose.
Quoi donc ?
Écoute-toi-même.
Comment pouvez-vous me dire cela, moi qui ne chante que pour vous ?
Vous devez être bien fatiguée.
Non, ce soir, je vous ai donné mon âme et je suis morte.
Ton âme est bien belle, mon enfant. Et je te remercie. Il n'y a point d'empereur qui ait reçu un pareil cadeau. Les anges ont pleuré ce soir.
Qui parle ?
Je l'ignore.
Frappe à la porte, tu connaîtras ton rival.
Jamais.
Mais bien sûr que si, tu es un chani. Tu dois oser.
Non, Philippe, je m'y refuse.
Je le fais à ta place.
Oui, entrez.
Entre, puisqu'elle te dit d'entrer.
Mais non.
Entre, je te dis, ou je te pousse à l'intérieur.
Monsieur ?
Je vous dérange ? Vous n'êtes pas seul ?
Je suis tout à fait seule. Qui êtes-vous ?
Moi ? Raoul de Chani ? Mademoiselle, vraiment ? Vous ne me reconnaissez pas ?
J'attends le médecin, je ne me sens pas très bien.
Mademoiselle, puisqu'il vous plaît de ne point me reconnaître, je voudrais vous dire quelque chose. Quelque chose de très important.
Quand j'irai mieux, monsieur, voulez-vous ? Vous êtes très gentil, mais il faut vous en aller.
M'en aller ? Comme il vous plaira. Mes hommages.
Au revoir, monsieur.
Alors ?
Personne. Elle était seule, je ne comprends pas. Nous avons bien entendu une voix.
Elle était seule ?
Et elle ne m'a pas reconnue.
Mon pauvre Raoul, c'est une artiste.
Je ne comprends pas, elle, ordinairement si douce.
Mon pauvre Raoul, c'est une femme.
Mais quoi, jeune fille ? J'attends un ami. Vous n'êtes pas la répétition du ballet ?
Le fantôme ! C'est le fantôme !
Vous l'avez vu ?
Comme je vous vois.
Si c'est lui, il est bien laid.
Vraiment ?
Ah, monsieur en habit noir.
Sorti de la muraille.
D'un seul coup.
Sans un bruit.
Avec une tête de mort. Vous voyez des fantômes partout.
Vraiment, il était là ?
Qui est là ? Il y a quelqu'un derrière la porte ?
Certainement, il y a quelqu'un. Surtout n'ouvrez pas.
Nous verrons bien.
Mon Dieu, n'ouvrez pas !
Non, il n'y a personne dans le couloir.
Et pourtant, nous l'avons bien vu. Il doit être quelque part par là, à rôder. Moi, je ne retourne pas m'habiller. Nous devrions descendre ensemble au foyer.
Mes enfants, il faut vous remettre. Le fantôme, personne ne l'a peut-être jamais vu.
Nous, on l'a vu. Nous, on l'a vu tout à l'heure.
Oui, comme Joseph Buquet, le chef machiniste, l'a décrit.
Oui. Maigre et flottant dans son habit.
Joseph Buquet a été victime d'une plaisanterie. Tout le monde sait ça.
Non, le lieutenant des pompiers l'a vu aussi.
Le lieutenant des pompiers a parlé d'une tête de feu. Rien à voir avec une tête de mort.
Le fantôme a plusieurs têtes dont il change comme il veut.
Et Gabriel aussi l'a vu, pas plus tard qu'hier dans l'après-midi,
en plein jour.
Gabriel ? Le maître de chant ?
Mais oui ! Comment vous ne savez pas ?
Et il avait son habit ? En plein jour?
Qui ça? Gabriel?
Mais non, le fantôme.
Bien sûr qu'il avait son habit. C'est Gabriel lui-même qui me l'a dit.
C'est même à ça qu'il l'a reconnu. Gabriel a vu le fantôme avec la tête de mort, comme l'a décrit Joseph Buquet.
Joseph Buquet ferait mieux de se taire.
Pourquoi donc il se tairait?
C'est l'avis de maman.
Mais pourquoi que c'est l'avis de ta mère?
Maman dit que le fantôme n'aime pas qu'on l'ennuie.
Et pourquoi elle dit ça, ta mère?
Parce que... Rien. Mmh. J'ai juré de rien dire.
On dira rien, raconte.
Vraiment?
Tout à fait.
Voilà. C'est à cause de la loge.
Quelle loge?
Mais la loge du fantôme!
Le fantôme a une loge?
Mais oui, bien sûr!
Oh, mon Dieu, raconte!
C'est la première loge, numéro 5. Vous savez bien, la première loge à côté de l'avant-scène à Jardin.
Pas possible!
Mais c'est comme je vous le dis! C'est maman qui en est l'ouvreuse. Mais vous me jurez bien de rien raconter.
Mais oui, va! Oui,
eh bien, c'est la loge du fantôme. Personne n'y est venu depuis plus d'un mois, excepté le fantôme, bien entendu, et on a donné l'ordre à l'administration de plus jamais la louer.
Et c'est vrai que le fantôme y vient?
Mais oui!
Il y vient donc quelqu'un?
Mais non! Le fantôme y vient, et il n'y a personne.
Quoi? Comment? Si le fantôme vient dans la loge, on doit le voir, puisqu'il a un habit noir et une tête de mort.
Mais justement! On ne voit pas le fantôme! Et il n'a ni habit ni tête. Tout ce qu'on a raconté sur sa tête de mort et sur sa tête de feu, c'est des blagues. Il n'y a rien du tout. On l'entend seulement quand il est dans la loge. Maman ne l'a jamais vu, mais elle l'a entendu. Maman le sait bien, puisque c'est celle qui donne le programme.
Petite Giry, tu te moques de nous?
J'aurais mieux fait de me taire, si maman ne savait jamais ça. Mais pour sûr que Joseph Buquet a tort de s'occuper de choses qui ne le regardent pas, ça lui portera malheur. Maman le disait encore hier soir.
Cécile! Cécile, tu es là?
C'est maman! C'est maman! Qu'y a-t-il? Nous sommes là, chez Mademoiselle Sorelli!
Quel malheur!
Quoi?
Joseph Buquet.
Eh bien, Joseph Buquet.
Joseph Buquet est mort. On vient de le trouver pendu dans le troisième dessous.
C'est le fantôme! Oh non, non, je n'ai rien dit! J'ai rien dit!
Vous êtes certain qu'il s'agit d'un suicide, monsieur le commissaire?
Cela ressemble fort à un suicide par pendaison. Sauf que la corde a disparu.
Sans doute les coryphées et les rats l'auront fait disparaître pour conjurer le mauvais œil.
Vous n'êtes pas sérieux. Quand je songe au contraire à l'endroit exact où le corps a été trouvé, dans le troisième dessous entre un portant et le décor du roi de Lahore, j'imagine qu'il peut y avoir quelque part un intérêt à ce que la corde disparaisse après avoir fait sa besogne.
Je vous laisse seul juge, monsieur le commissaire.
Il semble que votre Joseph Buquet était très aimé.
C'est la réputation qu'il avait.
Une affaire bien étrange pour un suicide. Je dois vous laisser. À vous revoir, messieurs.
Monsieur le commissaire.
Je vous raccompagne.
C'est bien étrange, en effet. Mais si le commissaire Mifroy n'a rien trouvé, c'est qu'il n'y a rien à trouver. Rémi, il va falloir nous habituer au fonctionnement particulier de l'opéra.
Oui, monsieur le directeur.
Qu'avons-nous d'autre?
Le courrier du jour.
Quelque chose d'important?
Non, sauf cette lettre singulière écrite à l'encre rouge.
Montrez voir. Oh, l'écriture me dit quelque chose. Lisez donc.
Mon cher directeur, vous êtes libre d'administrer votre petite affaire comme bon vous semble. Tout de même, je vous prierai de ne point disposer de ma loge, la numéro 5, aujourd'hui ni les jours suivants. J'ai été désagréablement surpris hier en arrivant à l'opéra d'apprendre qu'elle avait été louée sur vos ordres. Monsieur Poligny, qui a toujours été charmant pour moi, a sans doute négligé avant son départ de vous parler de mes petites manies. Si vous voulez que nous vivions en paix, il ne faut pas commencer par m'enlever ma loge. De plus, je désire entendre Christine Daae ce soir dans le rôle de Siebel, puisque celui de Marguerite, depuis son triomphe de l'autre jour, lui est interdit par Mademoiselle Carlotta. Sous le bénéfice de ces petites observations, veuillez me considérer, mon cher directeur, comme votre très humble et très obéissant serviteur, signé le fantôme de l'opéra.
La plaisanterie continue, mais elle n'est pas drôle.
Qu'est-ce que cela signifie?
Mais cela signifie que M. Poligny pense que parce qu'il a été directeur de l'opéra, je vais lui concéder une loge à perpétuité. Je ne suis point d'humeur à me laisser longtemps berner.
Vraiment ? Vous le soupçonnez ?
Mais regardez, Monsieur Poligny habite rue Aubert. La lettre de ce soi-disant fantôme a été postée rue des Capucines. Coïncidence ?
En effet, c'est à deux pas, mais cela me semble assez inoffensif. S'il se donne du mal pour une simple loge, donnez-la lui pour ce soir. Après tout, sans sa démission, vous ne seriez pas ici.
Vous avez raison.
Et pour la petite Christine Daé ?
Je vais y réfléchir.
Mon cher directeur, merci, charmante soirée. Daé exquise, soignez les cœurs, la Carlotta, magnifique et banal instrument. Oh. Vous écrirez bientôt pour les 240 000 francs, serviteur fantôme de l'opéra. Il s'amuse encore. Il y a aussi celle-là, monsieur le directeur, qui vous est adressée à titre personnel.
Poligny encore. Monsieur Richard, je vous remercie de votre aimable attention, mais vous comprendrez facilement que la perspective de réentendre Faust, si douce soit-elle, un ancien directeur de l'opéra, ne puisse me faire oublier que je n'ai aucun droit à occuper la première loge numéro 5 qui appartient exclusivement à celui dont j'ai eu l'occasion de vous parler en relisant avec vous une dernière fois le cahier des charges, dernier alinéa de l'article 63. Veuillez agréer, monsieur, etc., etc. Il commence à m'agacer, celui-là. Relouez la loge et qu'on n'en parle plus.
Bien, monsieur le directeur.
Mon petit frère, ton valet me dit que tu es au plus mal.
Regarde ça, naître de Christine.
Enfin, elle te répond.
Ne te réjouis pas trop. Regarde par toi-même.
Monsieur, ne cherchez pas à me revoir. Je pars ce jour même pour la Bretagne me recueillir sur la tombe de mon père à Perros. Ensuite, je ne sais ce que je deviendrai. Adieu.
Je ne peux pas l'oublier.
Mais en même temps, le billet est parfumé.
C'est vrai.
De plus, elle te dit où elle sera.
Tu as raison. Elle ne me rejette pas totalement, au contraire.
Il y a de l'espoir.
Beaucoup d'espoir.
Et que fais-tu ? Je vais faire préparer mon bagage et je pars pour la Bretagne par le premier train.
Entrez, Rémi.
Monsieur le directeur, le contrôleur est avec moi pour son rapport.
Quel rapport ?
Celui relatif aux incidents qui se sont déroulés hier soir dans la loge numéro 5.
Quoi ? C'est une plaisanterie ?
Pas du tout, monsieur le directeur. J'ai été dans la nécessité d'appeler un garde municipal pour faire évacuer par deux fois, au commencement et au milieu du second acte, la loge numéro 5.
Vraiment ?
Tout à fait. Les occupants y causaient un véritable scandale par leurs rires et leurs réflexions saugrenues. L'ouvreuse est venue me trouver, car la salle commençait à protester. Je suis entré dans la loge, j'ai fait à ces gens qui ne paraissaient pas jouir de tout leur bon sens les observations nécessaires, et je suis reparti. Mais ils ont recommencé, alors je suis revenu avec un garde municipal qui les a fait sortir.
Et enfin, ces gens-là, pourquoi riaient-ils ?
Monsieur le directeur, il devait avoir bien dîné et paraissait plus préparé à s'amuser qu'à écouter de la bonne musique. Déjà, en arrivant, il s'était plaint à l'ouvreuse qu'une voix leur aurait dit qu'il y avait déjà quelqu'un dans la loge. Mais la loge était vide, assurément.
Il n'y avait personne dans la loge ?
Personne, monsieur le directeur, personne. Ni dans la loge de gauche, ni dans la loge de droite, personne, je vous le jure. J'en mets ma main au feu. Et c'est ce qui prouve bien que tout cela n'est qu'une plaisanterie.
Et l'ouvreuse, qu'est-ce qu'elle a dit ?
Oh. Pour l'ouvreuse, c'est bien simple, elle dit que c'est le fantôme de l'opéra, alors...
Bon, qu'on aille me chercher cette ouvreuse.
Très bien, monsieur le directeur.
Qui est le fantôme de l'opéra ?
Je ne sais pas.
Vous l'avez vu, vous, le fantôme de l'opéra ?
Jamais. J'ai juste entendu des bavardages de danseuses.
Tant pis, parce que je vais faire régler leur compte à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Puisqu'il est partout, il n'est pas admissible qu'on ne l'aperçoive nulle part. J'aime qu'on fasse son service, moi. Oui.
L'ouvreuse, monsieur le directeur.
Approchez. Comment vous appelez-vous ?
Madame Giry. Oh, vous me connaissez bien, monsieur le directeur. C'est moi la mère de la petite Giry, la danseuse.
Non, connais pas. Mais madame Giry, il n'empêche que je voudrais bien savoir ce qui est arrivé hier soir dans la loge numéro 5.
Je voulais justement vous voir pour vous en parler, monsieur le directeur. À seule fin qu'il vous arrive pas les mêmes désagréments qu'à monsieur Poligny. Lui non plus, au commencement, il voulait pas m'écouter.
Je ne vous demande pas tout ça. Je vous demande ce qui est arrivé hier soir.
Il est arrivé qu'on a encore embêté le fantôme. C'est sa loge.
Mais il n'y avait personne dans cette loge avant que les occupants ne viennent.
Ben sûrement que si, puisqu'une voix leur a dit que la loge est occupée. Et cette voix, c'était celle du fantôme. Je l'ai entendue souvent. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à M. Poligny.
Vous avez déjà parlé au fantôme, ma brave dame ?
Comme je vous parle, monsieur le directeur.
Et quand il vous parle, le fantôme, qu'est-ce qu'il vous dit ?
Eh ben, il me dit de lui apporter un petit banc.
Un petit banc ?
Au lieu de rire du fantôme, vous feriez mieux de faire comme monsieur Poligny, qui lui s'est rendu compte par lui-même.
Rendu compte de quoi ?
Du fantôme. Puisque je vous le dis, tenez, je m'en rappelle comme si c'était hier. Cette fois, on jouait la juive. Monsieur Poligny avait voulu assister tout seul dans la loge du fantôme à la représentation. Madame Cros avait obtenu un succès fou. Elle venait de chanter, vous savez bien, la machine du second acte. Il va venir, il est froid, je me sens frémir.
Oui, bien, j'y suis. Une vocation tardive. Et alors ?
Eh ben, juste à ce moment-là, Monsieur Poligny, que j'observais du fond d'une loge à côté qui était restée vide, Monsieur Poligny s'est levé tout droit et est parti raide comme une statue. Et j'ai eu que le temps de lui demander, ben, où allez-vous ? Mais il m'a pas répondu. Et il était plus pâle qu'un mort. Je l'ai regardé descendre l'escalier. Il s'est pas cassé la jambe. Et pourtant, il marchait comme dans un rêve, comme dans un mauvais rêve. Et il retrouvait seulement pas son chemin. Lui qui était payé pour bien connaître l'opéra.
Mais tout ça ne me dit pas dans quelles circonstances, ni comment le fantôme de l'opéra vous a demandé un petit banc.
C'est depuis ce soir-là. Car à partir de ce soir-là, on l'a laissé tranquille, notre fantôme. On n'a plus essayé de lui disputer sa loge. Monsieur Poligny a donné des ordres pour qu'on la lui laisse à toutes les représentations. Alors quand il venait, il me demandait son petit banc.
Un fantôme qui demande son petit banc. C'est donc une femme, votre fantôme ?
Mais non, le fantôme est un homme.
Comment le savez-vous ?
Il a une voix d'homme. Oh, une douce voix d'homme. La première fois que j'ai entendu trois petits coups secs frapper à la loge numéro 5, alors que je savais très bien qu'il n'y avait personne à l'intérieur, vous pensez si j'ai été intriguée ? J'ouvre la porte, j'écoute, je regarde, personne. Puis v'là-t-il pas que j'entends une voix qui me dit « Madame Giry, un petit banc s'il vous plaît ». J'en étais comme une tomate, mais la voix a continué. « Ne vous effrayez pas, Madame Giry, c'est moi, le fantôme de l'opéra ». Je regardais du côté d'où venait la voix qui était si bonne, si accueillante, qu'elle me faisait presque plus peur. La voix, monsieur le directeur, était assis sur le premier fauteuil du premier rang à droite. Sauf que je voyais personne sur le fauteuil.
Ah.
Il faut croire que le fantôme est satisfait de mes services. À la fin du spectacle, il me donne toujours une pièce de 40 sous, quelquefois 100 sous, quelquefois même 10 francs quand il a été plusieurs jours sans venir. Seulement, depuis qu'on a recommencé à l'ennuyer, il me donne plus rien du tout.
Pardon, ma brave femme. Comment le fantôme fait-il pour vous remettre vos 40 sous ?
Bah, il les laisse sur la tablette de la loge. Je les trouve là avec le programme que je lui apporte toujours.
Madame Giry, vous n'avez pas observé le règlement. Je vous mets à l'amende.
Taisez-vous, imbécile. C'est bien, Madame Giry. Vous pouvez vous retirer.
Bien, monsieur le directeur.
Monsieur le contrôleur ?
Oui, monsieur le directeur.
Vous donnerez son congé à cette vieille folle.
Bien, monsieur le directeur.
Je ne vous retiens pas.
Au revoir, monsieur le directeur.
Rémi ?
Oui, monsieur le directeur.
Vous donnerez l'ordre à monsieur l'administrateur de donner son congé à cet idiot de contrôleur.
Raoul, vous êtes venu? Cela ne m'étonne point. J'avais le pressentiment que je vous retrouverais ici. Comme si mon pauvre papa qui est mort m'avait annoncé votre arrivée.
Est-ce que votre papa vous a dit que je vous aimais, Christine? Et que je ne puis vivre sans vous?
Moi, vous êtes fou, mon ami.
Ne riez pas, Christine, c'est très sérieux.
Je ne vous ai point fait venir pour que vous me disiez des choses pareilles.
Vous m'avez fait venir, Christine. Vous aviez deviné que votre lettre ne me laisserait point indifférent et que j'accourrais à Perros. Comment avez-vous pu penser cela si vous n'avez pas pensé que je vous aimais?
Au fond, je ne sais pas bien ce que j'ai pensé. J'ai peut-être eu tort de vous écrire. Votre apparition si subite l'autre soir dans ma loge alors que j'étais dans un moment de tristesse.
Mais pourquoi alors, quand vous m'avez vu dans votre loge, pourquoi avez-vous répondu comme si vous ne me connaissiez point? Vous ne me répondez pas. Eh bien, je vais répondre pour vous, moi. C'est qu'il y avait quelqu'un dans cette loge qui vous gênait, Christine. Quelqu'un à qui vous ne vouliez point montrer que vous pouviez vous intéresser à quelqu'un d'autre.
Si quelqu'un me gênait, mon ami, si quelqu'un me gênait ce soir-là, ça devait être vous, puisque c'est vous que j'ai mis à la porte.
Oui, pour rester avec l'autre.
Mais que dites-vous, monsieur? De quel autre s'agit-il ici?
De celui à qui vous avez dit « Je ne chante que pour vous, je vous ai donné mon âme ce soir et je suis morte ».
Vous écoutiez donc derrière la porte?
Oui, parce que je vous aime. Et j'ai tout entendu.
Vous avez entendu quoi?
Il vous a dit « Il faut m'aimer ».
Dites. Dites encore, dites tout ce que vous avez entendu. Vous voyez bien que vous me faites mourir.
J'ai entendu encore qu'il vous a répondu quand vous lui avez dit lui avoir donné votre âme. Ton âme est bien belle, mon enfant, et je te remercie. Il n'y a point d'empereur qui ait reçu un pareil cadeau. Les anges ont pleuré ce soir.
Écoutez-moi, Raoul. Je suis résolue à vous dire quelque chose de grave, de très grave. Connaissez-vous la légende de l'ange de la musique?
Je crois.
Mon père m'a dit un jour, quand je serai au ciel, mon enfant, je te l'enverrai. Eh bien, Raoul, mon père est au ciel et j'ai reçu la visite de l'ange de la musique.
Je n'en doute pas.
Comment l'entendez-vous?
J'entends qu'une créature humaine ne chante point comme vous avez chanté l'autre soir, sans qu'intervienne quelque miracle, sans que le ciel y soit pour quelque chose. Il n'est point de professeur sur la terre qui puisse vous apprendre des accents pareils. Vous avez entendu l'ange de la musique, Christine?
Oui, dans ma loge. C'est là qu'il vient me donner ses leçons quotidiennes.
Dans votre loge?
Oui, c'est là que je l'ai entendu. Et je n'ai pas été la seule à l'entendre.
Qui donc l'a entendu encore, Christine?
Vous, mon ami.
Moi? J'ai entendu l'ange de la musique?
Oui, l'autre soir. C'est lui qui parlait quand vous écoutiez derrière la porte de ma loge. C'est lui qui m'a dit « Il faut m'aimer ». Mais je croyais bien être la seule à percevoir sa voix. Aussi, jugez de mon étonnement quand j'ai appris ce soir que vous pouviez l'entendre vous aussi. Pourquoi riez-vous? Vous croyez peut-être avoir entendu une voix d'homme?
C'est certain.
Mais que croyez-vous donc? Je suis une honnête fille, moi, monsieur le vicomte de Chagny, et je ne m'enferme point dans ma loge avec des voix d'homme. Vous avez ouvert la porte, vous avez vu qu'il n'y avait personne.
C'est vrai, je n'ai trouvé personne d'autre que vous dans la loge.
Vous voyez bien, alors?
Alors, Christine, je pense qu'on se moque de vous.
Oh non, non.
Que se passe-t-il?
Il est venu, il m'a suivi.
Qui est venu?
Raoul, il faut avoir le courage de ne plus me revoir, de ne plus me parler. Si vous m'aimez un peu, faites cela pour moi qui ne vous oublierai jamais. Surtout, ne pénétrez plus jamais dans ma loge, il y va de votre vie, il y va de la mienne. Adieu.
Christine, revenez. Christine? Quoi? Quelqu'un qui joue? Non. Non, grand Dieu, le masque de la mort.
Une nouvelle lettre du fantôme? Vraiment?
Tout à fait, monsieur le directeur. Je reconnais maintenant son écriture et je suis certain qu'il ne s'agit pas de celle de monsieur Poligny.
Et qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre, Rémy?
Mon cher directeur, c'est donc la guerre. Si vous tenez encore à la paix, voici mon ultimatum. Il est aux quatre conditions suivantes. Premièrement, me rendre ma loge, et je veux qu'elle soit à ma libre disposition dès maintenant. Deuxièmement, le rôle de Marguerite sera chanté ce soir par Christine Daae. Ne vous occupez pas de la Carlotta qui sera malade.
Malade.
Troisièmement, je tiens absolument au bon et loyaux service de Madame Giry, mon ouvreuse, que vous réintégrerez immédiatement dans ses fonctions.
Oh.
Quatrièmement, faites-moi connaître par une lettre remise à Madame Giry, qui me la fera parvenir, que vous acceptez, comme votre prédécesseur, les conditions du cahier des charges relatives à mon indemnité mensuelle. Je vous ferai savoir ultérieurement dans quelle forme vous aurez à me la verser. Sinon...
Sinon quoi ?
Sinon, vous donnerez Faust ce soir dans une salle maudite. À bon entendeur, salut, le fantôme de l'opéra.
Eh ben, il m'embête, moi ! Il m'embête !
Monsieur le directeur.
Merci, quoi encore ? Rémi, je vous verrai tout à l'heure.
Je vous cherchais, Lachenal voudrait vous voir. Il paraît que l'affaire est urgente et le bonhomme me paraît tout bouleversé.
Qui est ce Lachenal ?
C'est votre écuyer en chef.
Comment ? Mon écuyer en chef ?
Mais oui, monsieur, il y a à l'opéra plusieurs écuyers et monsieur Lachenal est leur chef.
Et qu'est-ce qu'il fait, cet écuyer ?
Il a la haute direction de l'écurie.
Quelle écurie ?
Mais la vôtre, monsieur, l'écurie de l'opéra.
Il y a une écurie à l'opéra ? Ma foi, je n'en savais rien. Et où se trouve-t-elle ?
Dans les dessous, du côté de la rotonde. C'est un service très important. Nous avons 12 chevaux.
12 chevaux ? Et pourquoi faire, grand Dieu ?
Mais pour les défilés de la Juive et du prophète, etc. Il faut des chevaux dressés qui connaissent les planches. Les écuyers sont chargés de les leur apprendre. Monsieur Lachenal y est fort habile. C'est l'ancien directeur des écuries de Franconi.
Oh, très bien. Mais qu'est-ce qu'il me veut ?
Je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais vu dans un état pareil.
Faites-le entrer.
Monsieur le directeur.
Bonjour, monsieur Lachenal. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite ?
Monsieur le directeur, je viens vous demander de mettre toute l'écurie à la porte.
Comment ? Vous voulez mettre à la porte nos chevaux ?
Il ne s'agit pas des chevaux, mais des palefreniers.
Combien avez-vous de palefreniers, monsieur Lachenal ?
6.
6 palefreniers ? C'est au moins trop de 2.
Ce sont là des places qui ont été créées et qui nous ont été imposées par le sous-secrétariat des Beaux-Arts. Elles sont occupées par des protégés du gouvernement et, si j'ose me permettre...
Mais le gouvernement, je m'en fiche ! Nous n'avons pas besoin de plus de 4 palefreniers pour 12 chevaux.
11.
12.
11.
Ah, c'est Monsieur Mercier, notre administrateur, qui m'a dit que vous aviez 12 chevaux.
J'en avais 12, mais je n'en ai plus que 11 depuis qu'on nous a volé César.
On nous a volé César ? César, le cheval blanc du prophète ?
Il n'y a pas 2 César. J'ai été 10 ans chez Franconi et j'en ai vu des chevaux. Il n'y a pas 2 César et on nous l'a volé.
Comment cela ?
J'en sais rien. Personne n'en sait rien. Voilà pourquoi je viens vous demander de mettre toute l'écurie à la porte.
Qu'est-ce qu'ils disent, vos palefreniers ?
Des bêtises. Les uns accusent des figurants, les autres prétendent que c'est le concierge de l'administration.
Le concierge de l'administration, j'en réponds comme de moi-même.
Mais enfin, monsieur le premier écuyer, vous devez avoir une idée.
Eh bien oui, j'en ai une. J'en ai une, et je vais vous la dire. Pour moi, il n'y a pas de doute. C'est le fantôme qui a fait le coup.
Ah, vous aussi. Vous aussi.
Mais comment ? Moi aussi, mais c'est la chose la plus naturelle.
Mais comment donc, monsieur Lachenal ? Mais comment donc, monsieur le premier écuyer ?
Que je vous dise ce que je pense après ce que j'ai vu.
Et qu'est-ce que vous avez vu, monsieur Lachenal ?
J'ai vu, comme je vous vois. Une ombre noire qui montait un cheval blanc qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à César.
Mais vous n'avez pas couru après ce cheval blanc et cette ombre noire ?
J'ai couru et j'ai appelé, monsieur le directeur. Mais ils se sont enfuis avec une rapidité déconcertante et ont disparu dans la nuit de la galerie.
Ah, je vois. Nous allons déposer une plainte contre le fantôme. C'est bien, monsieur Lachenal. Vous pouvez vous retirer.
Et vous allez fiche mon écurie à la porte.
Oui, c'est entendu, c'est entendu. Au revoir, monsieur. Mercier, vous allez régler le compte de cet imbécile d'écuyer en chef.
Bien, monsieur le directeur.
Pardon, excuse, messieurs, mais j'ai reçu ce matin une lettre du fantôme de l'opéra. Il me dit de passer chez vous, que vous avez censément quelque chose
à... Ah, mais non. Vous et votre fantôme, déguerpissez.
J'ai envie de me frapper la tête contre les murs.
Raoul, ce ne serait pas raisonnable.
Son ange de la musique, je vois très bien ce que c'est. Un affreux ténor, joli garçon et qui chante la bouche en cœur.
Sans doute.
Je ne suis qu'un ridicule et insignifiant petit vicomte.
Tu n'aurais pas dû te rendre dans ce cimetière. Tu n'es plus le même depuis.
Je l'ai vu, elle voulait me parler avant de s'enfuir. Et surtout, j'ai vu ma propre mort qui jouait une musique.
Une illusion. Tes sens t'auront joué des tours.
Depuis, elle me fuit, elle ne répond plus à mes lettres.
Viens avec moi. Sortons au bois. Tiens, ce soir, allons au cabaret. Tu dois oublier Christine et son ange de la musique.
Je ne peux pas les oublier. ni elle, ni lui.
Entrez.
Ma chère Carlotta, vous vouliez me voir?
Monsieur le directeur, pouvez-vous m'expliquer cela?
Une lettre?
Une lettre anonyme qu'on vient de me porter, écrite à l'encre rouge. Si vous chantez ce soir, chère Carlotta, craignez qu'il ne vous arrive un grand malheur au moment même où vous chanterez. Un malheur pire que la mort.
Une plaisanterie de mauvais goût.
Une cabale de la petite Daé.
Christine? Oh, impossible. C'est l'innocence même.
Elle rêve de me prendre mon rôle.
Jamais. Christine devra se contenter de celui de Siebel tant que la grande Carlotta sera notre Marguerite.
Vraiment?
Absolument.
Vous êtes charmant. Et cette menace?
Rien du tout. D'ailleurs, je serai là, dans la loge numéro 5, à vous encourager.
Dans ce cas, et tous mes amis seront dans la salle, nous verrons bien. Je n'ai pas de rival à l'Opéra de Paris.
Je le sais parfaitement. Deux actes sans incident. Et cette loge numéro 5 est vide. Le fantôme est en retard.
La Carlotta n'a pas encore chanté.
Oh, ce fantôme est rien, je vous le dis. C'est une loge comme toutes les autres premières loges.
Vous avez sans doute raison, monsieur le directeur.
Et la petite taille a remarquablement chanté sans si belle. Elle a été bien applaudie. Je comprends les craintes de la Carlotta.
Oui, en coulisses, j'ai entendu parler d'une cabale montée contre elle.
Qu'est-ce que c'est encore que ça? Je croyais avoir réglé cette affaire.
On dit que la Carlotta serait furieuse. Oh, Christine Daé a des amis?
Oui, le comte de Chagny, là-haut, troisième rang de l'orchestre. Il me l'a recommandé si chaleureusement que si je ne le savais pas l'ami de la Sorelli, j'aurais pu le soupçonner d'avoir menacé la Carlotta.
Et qui donc est ce jeune homme si pâle assis à côté de lui?
C'est son frère, le vicomte.
Il ferait mieux d'aller se coucher, il a l'air malade. À propos... La mère Giry va porter plainte contre vous.
Porter plainte? Auprès de qui? Auprès du fantôme?
Ça, je ne sais pas, monsieur le directeur.
Chut, la Carlotta va chanter.
Terrorisée par quelque chose.
Elle chante ce soir à décrocher les lustres.
Qu'est-ce que vous dites, Rémi?
Rien. Rien, monsieur le directeur, je pensais que c'était vous.
Mais cette voix, pourtant... Le lustre, Rémi, le lustre bouge.
Vous me connaissez?
Christine parle souvent de vous, je suis sa logeuse depuis 2 ans déjà. elle me fait des confidences.
Vraiment? N'ayant plus de nouvelles depuis l'histoire du lustre?
Ah oui, le lustre. De mort quand même, hein. Et tous ces blessés.
Depuis, personne ne l'a revue à l'opéra. Madame, où est Christine?
Mais elle est avec son bon génie.
Quel bon génie?
Mais l'ange de la musique. Il ne faut le répéter à personne.
Vous pouvez compter sur moi.
Je sais, je sais. Je vous aime bien, monsieur Raoul. Et Christine aussi vous aime bien.
Elle m'aime bien? Qu'est-ce qui vous fait croire, madame, que Christine m'aime bien?
Elle m'a parlé de vous tous les jours.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Elle m'a dit que vous lui aviez fait une déclaration.
Elle s'est enfuie juste après.
Ce n'est point de votre faute ce qui est arrivé. Vous ne saviez pas. Vous êtes jeune. Et vous pensiez que Christine était libre.
Christine est fiancée?
Non, non, mais non. Vous savez bien que Christine, même si elle le voulait, ne peut pas se marier.
Mais je ne sais rien. Et pourquoi Christine ne peut-elle pas se marier?
Mais à cause du génie de la musique.
Encore?
Oui, il le lui défend.
Il le lui défend? Le génie de la musique lui défend de se marier?
Oh, il le lui défend sans le lui défendre. Il lui dit simplement que si elle se mariait, elle ne l'entendrait plus, voilà tout. Et qu'il partirait pour toujours. Alors, vous comprenez, elle ne veut pas laisser partir le génie de la musique. C'est bien naturel.
Oui, 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 c'est bien naturel.
Du reste, je croyais que Christine vous avait dit tout cela quand vous l'avez trouvée au cimetière de Perros.
Nous avons été interrompus par un air de musique. Madame, vous allez me dire où il demeure, ce génie-là?
Au ciel?
Oui, bien sûr. Il y a combien de temps que Christine a fait la connaissance de ce génie?
Environ 3 mois. Oui, il y a bien 3 mois qu'il a commencé à lui donner des leçons.
Le génie lui donne des leçons, et où ça?
Il y a 15 jours, cela se passait dans la loge de Christine. Le matin, à 8 heures, il n'y a personne, on ne les dérangeait pas. Mais en ce moment, je ne saurais vous le dire. Je ne lui ai pas parlé depuis l'histoire du lustre.
Comment la revoir?
Tenez, elle a laissé ça pour vous. Elle savait que vous viendriez ici.
Mon ami, soyez après-demain au bal masqué de l'opéra, à minuit, dans le petit salon qui est derrière le grand foyer.
Tenez-vous debout auprès de la porte qui conduit vers la rotonde. Ne parlez de ce rendez-vous à personne au monde. Mettez-vous en domino blanc, bien masqué, qu'on ne vous reconnaisse pas. Christine.
Raoul, j'ai failli ne pas te reconnaître derrière ce masque et ce costume.
Je ne vais pas pouvoir rester.
Vicomte, vous faites le mystérieux.
Ma chère, l'amour rend mon petit frère bien mystérieux en effet.
Ah vraiment? Qui donc est-ce? Une danseuse? Je la connais? Un bal masqué est idéal pour ce genre d'entreprise. Qu'est-ce que c'est?
Un singulier personnage.
Ne me touchez pas! Je suis la mort rouge qui passe. Ne me touchez pas. Je suis la mort rouge qui passe.
Effrayant.
Il est fascinant avec son masque rouge et son habit écarlate.
Le diable en personne.
Approchons-nous, mon cher.
C'est lui qui s'approche de nous.
Suivez-moi.
C'est vous, Christine?
Ne dites pas mon nom. Suivez-moi, éloignons-nous de cet homme.
Qui est ce masque?
Taisez-vous, venez, vite. Entrons, personne ne vient jamais ici.
Qui est-ce?
Je vous en prie.
J'insiste, qui est l'homme en rouge?
Vous le connaissez déjà, il était au cimetière.
La musique, le masque de la mort.
C'est lui.
Votre ange de la musique ?
C'est lui.
Par l'enfer, je l'aurai, il ne m'échappera pas. Je lui arracherai son masque du visage, nous nous regarderons face à face et je saurai qui vous aimez et qui vous aime.
Au nom de notre amour, Raoul, vous ne sortirez pas.
Allons donc, laissez-moi passer.
Je vous en supplie.
Ah, madame, je comprends votre jeu maintenant. Vous n'avez d'autre but que de m'éloigner afin de laisser le temps à la mort rouge de s'échapper.
Pas du tout, c'est pour vous protéger que je fais ça.
Vous mentez, madame. Au nom de notre amour, dites-vous. Mais vous ne m'aimez pas et vous ne m'avez jamais aimé. Il faut être un malheureux petit jeune homme comme moi pour se laisser jouer, pour se laisser berner comme je l'ai été. Vous avez honteusement abusé du cœur candide de votre logeuse elle-même, qui continue cependant de croire à votre sincérité quand vous vous promenez au bal de l'opéra, avec la mort rouge. Madame, je vous méprise.
Vous me demanderez un jour pardon de toutes ces vilaines paroles, Raoul, et je vous pardonnerai.
Non, 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 vous m'avez rendu fou. Quand je pense que moi, je n'avais plus qu'un but dans la vie, donner mon nom à une jeune fille d'opéra et m'engager à la protéger.
C'est un engagement que je ne vous demande pas. Je suis libre de mes actions, monsieur de Chagny, vous n'avez aucun droit à les contrôler, et je vous prierai de vous en dispenser désormais. Quant à ce que j'ai fait depuis 15 jours, il n'y a qu'un homme au monde qui aurait le droit d'exiger que je lui en fasse le récit, mon mari. Or, je n'ai pas de mari et je ne me marierai jamais.
Vous n'avez pas de mari et cependant vous portez une alliance à votre main.
C'est un cadeau.
Christine, puisque vous n'avez point de mari, cet anneau ne peut vous avoir été donné que par celui qui espère le devenir. Pourquoi nous tromper plus avant ? Pourquoi me torturer davantage ? Cet anneau est une promesse et cette promesse a été acceptée.
Ne trouvez-vous point, monsieur, que cet interrogatoire a trop duré ?
Pardon de vous avoir parlé ainsi, mademoiselle. Vous savez bien quel honnête sentiment me fait me mêler en ce moment de choses qui, sans doute, ne me regardent pas.
Raoul, malheureux !
J'en mourrai de honte.
Vivez, mon ami. Et adieu.
Adieu, Christine.
Adieu, Raoul.
Oh, vous me permettrez bien de venir encore vous applaudir de temps en temps ?
Je ne chanterai plus, Raoul, et vous ne me verrez plus.
Pourrait-on savoir au moins à quelles ténèbres vous retournerez ? Pour quel enfer repartez-vous, mystérieuse madame ? Ou pour quel paradis ?
J'étais venue pour vous le dire ce soir, mon ami. Mais je ne peux plus rien vous dire. Vous ne me croiriez pas, vous avez perdu foi en moi, Raoul, c'est fini.
Mais enfin, me direz-vous ce que signifie tout ceci ? Vous êtes libre, sans entrave. Vous revêtez un domino pour courir le bal. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous ? Qu'avez-vous fait depuis 15 jours ? Quelle est donc cette histoire d'ange de la musique que vous avez racontée à votre logeuse ? Quelqu'un a pu vous tromper, abuser de votre crédulité ? J'en ai été moi-même le témoin au cimetière de Perros. Mais maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Expliquez-vous, Christine, je vous en prie, qu'est-ce que c'est que cette comédie ?
C'est une tragédie, mon ami.
Cette voix.
Pauvre Eric.
Eric ? Qui est Eric ?
Monsieur le régisseur ?
C'est parfait, il vous reste un essai de costume. L'habilleuse viendra dans votre loge.
Christine ! Christine !
Raoul ? Que faites-vous ?
Je vous cherchais.
Je peux y aller, monsieur le régisseur ?
Tout à fait, je vois que vous êtes attendu en coulisses.
Marchons un peu, mon ami. Ici, nous serons tranquilles, au milieu des décors.
Votre ange de la musique s'appelle Eric, n'est-ce pas ?
Qui est-ce qui vous l'a dit ?
Vous-même.
Comment cela ?
En le plaignant le soir du bal masqué. Vous étiez encore avec lui, n'est-ce pas ?
Taisez-vous. Au nom du ciel, taisez-vous s'il vous entendait, malheureux Raoul. Maintenant, j'ai peur de retourner chez lui.
Qu'est-ce qui vous force à y retourner, Christine ?
Si je ne retourne pas auprès de lui, il peut arriver de grands malheurs. Mais je ne peux plus. Je ne peux plus. Je sais bien qu'il faut avoir pitié des gens, mais celui-là est trop horrible. Et si je ne viens pas ?
C'est lui qui viendra me chercher avec sa voix. Il m'entraînera avec lui, chez lui, sous la terre. Et il se mettra à genoux devant moi avec sa tête de mort. Et il me dira qu'il m'aime. Et il pleurera. Ah, ses larmes, Raoul, ses larmes dans les deux trous noirs de la tête de mort. Je ne peux plus voir couler ses larmes.
Je vous enlèverai à sa puissance, Christine, je le jure. Et vous ne penserez plus à lui.
Est-ce possible?
Je vous cacherai dans un coin inconnu du monde où il ne viendra pas vous chercher. Vous serez sauvés. Et alors je partirai puisque vous avez juré de ne pas vous marier, jamais.
Oh, Raoul, que nous sommes malheureux.
Fuyons. Tout de suite, Christine, fuyons.
Non, non, pas maintenant. Ce serait trop cruel. Laissez-le m'entendre chanter ce soir, une dernière fois. Et puis nous nous en irons. À minuit, vous viendrez me chercher dans ma loge. À minuit exactement. À ce moment, il m'attendra dans sa demeure du lac.
Le lac?
Celui qui se trouve sous l'opéra. Vous m'emporterez et nous serons libres. Il faut me jurer cela, Raoul, car je sens bien que cette fois, si j'y retourne, je n'en reviendrai peut-être jamais. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez entendu?
Non, je n'ai rien entendu.
C'est affreux de trembler tout le temps comme cela. Et pourtant, je lui dois tellement. Ma voix, mon chant, il m'a tout donné.
Pourquoi avez-vous peur?
Parce que je l'ai vu, tel qu'il est, terrible et monstrueux.
Quand l'avez-vous vu pour la première fois?
En vérité, je l'entendais sans le voir. La première fois que je l'ai entendu, j'ai cru que cette voix adorable qui s'était mise tout à coup à chanter à mes côtés, chantait dans une loge voisine. Je suis sortie pour la chercher partout. Mais il me fut impossible de trouver la voix hors de ma loge, tandis qu'elle restait fidèlement dans ma loge. Et non seulement elle chantait, mais elle me parlait. Elle répondait à mes questions comme une véritable voix d'homme, avec cette différence qu'elle était belle comme la voix d'un ange. C'est alors qu'ont commencé les leçons. Je fis des progrès prodigieux. Je faisais tout ce que voulait la voix. Elle me disait d'attendre. Elle me disait que bientôt, nous étonnerions Paris. Et j'attendais. La voix avait la vertu de m'élever jusqu'à elle. Je vivais dans une espèce de rêve extatique où commandait la voix. Sur ces entrefaites, Raoul, je vous ai aperçu, un soir, dans la salle pour notre malheur. Et puis un jour, la voix m'a dit que je pouvais apporter aux hommes un peu de la musique du ciel. Comment, ce soir-là, qui était le soir de gala, la Carlotta ne vint-elle pas au théâtre? Comment ai-je été appelée à la remplacer? Je ne sais pas. Mais je chantais. Je chantais avec un transport inconnu. J'étais légère comme si l'on m'avait donné des ailes. Je crus un instant que mon âme embrasée allait quitter mon corps.
Mais quand l'avez-vous vue réellement?
Le soir où le lustre est tombé, je m'étais isolée dans ma loge et sans savoir comment, je ne puis m'expliquer cela. Je me suis réveillée hors de ma loge, quelque part dans l'obscurité profonde. Il était là, près d'un cheval blanc, tout de noir vêtu.
Le cheval blanc qui a disparu, César, j'ai entendu parler de cette histoire. Vous étiez donc dans les profondeurs de l'opéra?
La voix qui m'avait tout appris. La voix avait un vrai visage, un visage monstrueux, déformé. Alors il a remis son masque blanc pour ne plus m'effrayer. Il m'a conduite dans sa demeure sous la terre. C'est là qu'il m'avoua être mortellement amoureux de moi. Et ma présence chaque jour, au lieu de l'apaiser comme je l'espérais, le rendait davantage fou d'amour. Et la peur s'est installée.
Si Eric était beau, m'aimeriez-vous, Christine?
Pourquoi tenter le destin? Mon ami.
Quoi donc?
Regardez, l'anneau n'est plus à mon doigt. Je l'ai perdu, malheur sur nous.
C'était Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Adaptation Laurent Martin. Première partie. Avec Poligny, Jean-Claude Bourbeau, Firmin Richard, Hervé Furic, le comte Philippe de Chagny, Guillaume Marquet, le vicomte Raoul de Chagny, Thomas Rorté, Christine Daé, Eva Gentilly, Éric le fantôme, Pierre-Benoît Varouclier, Mademoiselle Sorelli, Anaïs Muller, Rémi le secrétaire, Pierre Rochefort, Madame Giry, Marie-Bénédicte Roy, la petite Giry, Alizée Soudé, Mercier l'administrateur, Antoine Gouy, la petite Jeanne, Clara Noël, le commissaire Mifroy, Olivier Clavry, la première danseuse, Julia Dusselier, la deuxième danseuse, Alexandra Flandrin, le contrôleur, Yvon Martin, la Carlotta, Paola Cordova, la Chenal l'écuyer, Donatien Guillot. Le régisseur, Théo Combi-Lemaître. La logeuse, Sophie Gubry. Et Baptiste Nernot, Louis Astier, Gérald Maillet, Mélissa Irma, Maxime Pambé, Julien Aluguette, Simon Peretti, Suad Temimi, Jean Eustache, Dominique Bettenfeld, Mathilde Martinage, Michel Baladi. Bruitage, Sophie Bissantz. Conseillère littéraire, Caroline Wasana. Équipe de réalisation, Samuel Razzano, Antoine Espel, Olivier Dupré, Roman Chiban, Jean-Mathieu Zand. À suivre.